Alors, on inaugure aujourd'hui un cycle de trois conférences avec notre écrivain en résidence, Martin Leclerc. Aujourd'hui, on va présenter rapidement les conférences avant de le présenter lui-même. Aujourd'hui, Martin Leclerc va nous parler de son rapport aux certaines grandes figures d'écrivains. Il va nous parler de l'Asimov, de Perrette et de comment situe son œuvre par rapport à eux. Le 7 novembre, toujours ici à 17h, il va nous parler de la traduction. Alors, sa conférence va s'intituler « Traduire, c'est écrire. Écrire, c'est traduire. La formation de l'écrivain par la traduction de textes de fiction et de non-fiction. » Et le 14 novembre, toujours à 17h, il va nous parler de l'adaptation au cinéma de « La maladie de Sachs ». Alors voilà, quelques mots rapidement pour présenter notre conférencier qui a plusieurs chapeaux, celui de médecin, de romancier, d'essayiste, traducteur, chroniqueur, journaliste, et sans doute que j'en oublie.
Professeur.
Professeur. Il a fait paraître donc, vraiment une douzaine, dont les plus connus sont La maladie de Sachs, Les trois médecins, Le cœur des femmes, il a écrit des nouvelles, des romans policiers, des contes pour enfants, des ouvrages sur la médecine, des essais sur le soin, des essais aussi sur les super-héros et sur les séries télé. Vous voyez qu'il a une très large palette. Alors voilà, je vais tarder de laisser parler. Donc, sa conférence aujourd'hui s'intitule « Asimov, Perrette et moi, comment on devient écrivain en étant lecteur de deux littératures ».
Comment on devient écrivain en buvant du chocolat? Alors, donc, mon prénom, c'est pas Martin Leclerc, mon prénom, c'est Marc Gaffran, et Martin Leclerc est un pseudonyme, et j'aurais peut-être dû m'appeler Isaac Winkler ou Georges Asimov. Et j'aurais pu m'appeler aussi Albert Serling ou Antoine Bester, parce que c'était des écrivains. Rod Serling, c'est évidemment le scénariste et auteur de Twilight Zone, qui est une grande série classique américaine. Et puis Alfred Bester était un autre auteur de science-fiction, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup qui a écrit des romans tout à fait importants. Mais j'aurais pu m'appeler Matson ou Simac, etc., parce que je lisais beaucoup de science-fiction quand j'étais adolescent. En fait, j'ai commencé à lire de la science-fiction. C'est vraiment l'une des littératures qui m'ont porté au tout début. J'ai lu de la science-fiction et donc j'ai commencé à lire essentiellement de la littérature anglo-saxonne, d'un côté de la science-fiction, de l'autre côté du roman policier, quand j'avais peut-être 10 ou 12 ans. Il y avait à côté de chez moi une bibliothèque privée qu'on appelait la bibliothèque pour tous, qui était au coin de la rue. Et comme on était des immigrants de fraîche date, mes parents et nous, mon frère et moi, on s'était installés dans une maison dans une petite ville de France. On venait d'Algérie, on avait passé un an en Israël. Et ma mère un jour revient avec des livres et des bandes dessinées. Alors elle avait ramené, je me souviens très bien des deux premiers albums de bandes dessinées qu'elle avait rapportés. C'était des bandes dessinées belges, pas françaises mais belges, parce qu'à l'époque c'était l'époque de Tintin, de Spirou, de la bande dessinée belge. Et c'était Le Grand Défi, qui était la première bande dessinée de la série Michel Vaillant. Michel Vaillant, c'est un conducteur de voitures de course. Et La Grande Menace, qui était le premier livre de la série de Jacques Martin, qui racontait. C'était une histoire de science-fiction, c'était une histoire fantastique. Et elle avait aussi emprunté des romans policiers, elle avait emprunté des romans de science-fiction, et ma sœur nous apportait des livres de science-fiction parce que elle recevait des livres en service de presse, parce qu'elle travaillait dans une radio. Et comme on n'avait pas beaucoup de livres parce qu'on venait d'immigrer, elle nous apportait des livres qu'elle recevait en livre de presse. Un de ses premiers livres, un des premiers livres que j'ai lus dans cette collection, c'est une collection considéré comme classique en France maintenant, qui s'appelle Ailleurs et Demain, Non, pardon, Présence du futur, Ailleurs et demain, c'était un peu plus tard, Présence du futur. Un des premiers livres que j'ai lu s'appelait Histoire mystérieuse, et c'était un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov. Et Histoire mystérieuse avait deux caractéristiques qui, moi, m'ont frappé d'emblée. J'étais déjà un gros lecteur, je lisais beaucoup, je lisais Jules Verne, je lisais déjà évidemment Agatha Christie, je lisais Conan Doyle, je lisais Maurice Leblanc, j'adorais Arsène Lupin, j'avais d'ailleurs fait travailler Arsène Lupin à mes étudiants dans le cours de création littéraire, pour leur montrer à quel point c'est de la bonne littérature, à quel point c'est bien écrit, c'est intelligent, c'est drôle. Histoire mystérieuse de Isaac Asimov, qui s'appelle en anglais, qui s'appelle Asimov's Mysteries, tout simplement, a ceci de particulier que ce sont des histoires de science-fiction qui sont aussi des histoires policières, hein, des énigmes policières. Et ça, c'était une première caractéristique qui n'est quand même pas banale, parce que le croisement des genres, de la science-fiction et du roman policier, est assez rare. Et Asimov, dans son introduction, explique ça très clairement. Il dit la raison pour laquelle le plus souvent il y a très peu d'histoires policières qui sont aussi des histoires de science-fiction, c'est que dans l'énigme policière, dans l'énigme classique, il faut que tous les éléments soient là devant le lecteur et que le lecteur soit en mesure de deviner qui est l'assassin avec les éléments que l'auteur a semés devant lui. Mais si l'auteur est un auteur de science-fiction et qu'il dit « Oui, mais en fait, l'assassin a traversé les murs avec son désintégrateur », là, ça marche pas, parce qu'on ne peut pas connaître le gimmick qui va permettre à l'assassin de... Il dit donc, il y a beaucoup d'écrivains et de lecteurs de romans policiers qui disent « C'est pas fair play d'écrire une histoire policière qui soit aussi une histoire de science-fiction, parce que l'auteur va nous sortir un procédé scientifique de dernière fagots dont on n'a jamais entendu parler pour donner la solution. » Et Asimov continue en disant « C'est pas vrai. L'auteur, il peut faire ce qu'il veut. Et s'il veut jouer fair play, il peut jouer fair play, même s'il fait de la science-fiction. » Et en fait, ce recueil était destiné à montrer qu'on pouvait être un écrivain de science-fiction qui écrivait des histoires, des énigmes policières, mais en restant tout à fait fair play avec le lecteur, c'est-à-dire, en fait, en se fondant sur des notions scientifiques avérées, qui étaient de connaissances courantes, et qui lui permettait de résoudre les nœuds. Alors, les nouvelles récemment, mais je me souviens d'une en particulier. Il avait un enquêteur qui s'appelait le professeur Wonder Earth, Earth U-R-T-H, mais qui sonne comme Earth, la Terre, évidemment, et qui était un peu son enquêteur fétiche, comme les enquêteurs fétiches des grands écrivains de romans policiers. Et dans une de ses nouvelles, le docteur Earth montrait que l'assassin était l'assassin parce que cet assassin, en fait, je crois qu'il avait été... fallait prouver qu'il ne s'était pas rendu sur la Lune pour assassiner le type qu'il avait assassiné. Et en fait, il montrait qu'il s'était rendu sur la Lune parce qu'il lui demandait de lui lancer quelque chose. Et il le lui lançait beaucoup plus loin, parce qu'il le lui lançait comme s'il était dans la gravité lunaire, qui est beaucoup moins importante. Et évidemment, quand vous êtes dans la gravité lunaire, vous faites un tout petit geste, le truc qui fait 30 mètres. Si vous êtes dans la gravité terrestre, il faut le lancer quand même beaucoup plus fort. Et là, ils étaient sur la Terre, ils disaient, lancez-moi le truc. Il lui lançait, et il lui lançait le truc beaucoup trop loin. Il dit, vous voyez, vous n'êtes pas encore habitué à la gravité terrestre, vous étiez sur la Lune la semaine dernière, donc c'est bien vous l'assassin. Je raconte cette histoire parce que pour moi c'était fascinant, une histoire comme ça, parce que, et un recueil comme celui d'Asimov était fascinant pour diverses raisons. La première, c'est que c'était un mélange des genres. Alors moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu de mélange des genres. Dans ma mentalité de lecteur français, les genres étaient des choses qui étaient compartimentées. On ne pouvait pas écrire une histoire de science-fiction qui était aussi une histoire policière et qui était aussi une histoire scientifique. Ça ne pouvait pas mélanger. La deuxième chose, c'était les commentaires d'Asimov lui-même, c'est-à-dire que Asimov, entre deux nouvelles, expliquait comment il l'avait écrit, quelle était l'idée qu'il avait eue, pourquoi est-ce qu'il avait eu cette idée-là, que des fois c'était un pari, qu'un de ses copains lui disait « Je suis sûr que tu ne peux pas écrire une histoire à partir de telle chose », il disait « un pari tenu », et il relevait le pari. C'est-à-dire que toutes les circonstances dans lesquelles il écrivait, faisait partie de la présentation du recueil de nouvelles. Et Asimov, alors je n'ai pas retrouvé mon exemplaire des histoires mystérieuses, mais j'ai acheté beaucoup de livres d'Asimov quand j'étais adolescent. Je suis parti un an aux États-Unis et j'ai acheté par exemple celui-là. Alors celui-là, je crois que c'était en Angleterre que j'avais acheté. Mais par exemple, dans Nightfall 2, qui date de 1969, enfin, c'est un recueil de 69, on voit très bien, entre deux nouvelles, il passe une page ou une page et demie à expliquer d'où lui est venue l'idée de la nouvelle, pourquoi est-ce qu'il a écrit à ce moment-là. En particulier, il présente une nouvelle dont il dit, voilà, un jour ma femme me dit, il y a quand même des... Il voyageait en train avec un de ses copains et le copain lui dit, mais je parie que tu ne peux pas trouver des idées n'importe où. Il dit, oui, je peux trouver des idées n'importe où et je peux même t'écrire une histoire à partir de ce voyage en train. Il lui dit, Paris relevé. Et il écrit une histoire qui s'appelle What If. Et What If, c'est une sorte d'histoire fantastique sur un couple qui voyage dans un train et qui, pendant qu'il passe dans un tunnel, se retrouve ailleurs, dans une autre situation. Et il conclut en disant, il présente sa nouvelle, il conclut en disant, et c'est bien de relever des défis comme ça, parce que j'ai écrit une nouvelle qui est une nouvelle romantique. Hein, c'est une romance short story, dans laquelle c'est juste une histoire d'amour, alors qu'habituellement, je n'écris pas d'histoire d'amour. Il y a peu de femmes dans les nouvelles. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup à traiter. Mais là, parce que j'étais obligé de relever le défi, et je l'ai fait avec les éléments qui m'entouraient, et là, j'ai écrit une histoire d'amour. Et quand j'ai lu, je suis très content, parce que c'est probablement la seule histoire d'amour que j'ai écrite dans toutes les nouvelles. Ce qui avait donc de fascinant chez Asimov, c'était cette manière de toujours montrer que le travail d'écrivain, c'était un travail, après il le répète et beaucoup de gens le répètent, c'est un travail, c'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration. L'inspiration, c'est juste l'amorce avec laquelle on va commencer à écrire. Alors bon, une nouvelle, un texte court par exemple, mais ça peut être un roman de science-fiction aussi. Il a écrit un très bon roman de science-fiction en 1976 ou 77 qui s'appelle The Gods Themselves, dans lequel il a inventé, un jour quelqu'un lui dit, je parie que tu n'es pas capable d'imaginer une espèce où il y a trois sexes. Il invente une espèce extraterrestre qui vit dans une autre dimension d'ailleurs, et où effectivement il y a trois sexes. C'est pas le seul thème de l'histoire d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que le thème de l'histoire est plus compliqué, mais une partie de l'histoire alterne entre l'univers que nous connaissons et puis cet univers dans lequel les individus sont de trois sexes différents. Et il y a quelque chose qui se passe entre les deux univers. Mais j'ai trouvé ça tout à fait fascinant qu'on puisse dire l'inspiration peut venir de choses très, très minces. Après, c'est du travail. Et l'autre chose qui me fascinait beaucoup, c'était la manière dont il introduisait dans ses textes de présentation. D'abord, le fait qu'il présente ses nouvelles, je n'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un auteur de fiction qui présentait ses textes. Et il était le premier à le faire. Évidemment, c'est pas du tout habituel dans le monde francophone. Moi, j'aime beaucoup le faire. Alors, parfois, quand je fais des recueils de nouvelles, je présente toujours mes nouvelles. Et c'est en hommage et en souvenir d'Asimov. Mais il introduisait aussi des éléments autobiographiques. C'est-à-dire qu'il n'hésitait jamais à dire il m'est arrivé telle chose quand j'étais gamin et je m'en suis souvenu et c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire dans cette nouvelle. Ou bien il dit un jour je suis allé voir John W. Campbell, qui était le rédacteur en chef de la revue dans laquelle il publiait le plus souvent et qui était quelqu'un qui influençait beaucoup les écrivains avec lesquels il travaillait. Et Campbell lui dit, écoutez, votre histoire de robot, elle est bien, mais moi j'en veux d'autres. Il faut m'en écrire plusieurs. Il avait écrit une histoire de robot. C'est lui qui lui dit, écrivez-moi d'autres histoires de robots. Puis au bout de plusieurs histoires de robots, il lui dit, ce serait bien qu'il y ait des lois pour les robots. Les robots, ils obéissent à des lois. Inventez-moi des lois de l'ordre. Alors, Asimov lui dit, je sais pas. Il dit, trois lois. Et Campbell lui donne les trois lois. Et Asimov, ensuite, alors qu'on attribue les trois lois de la robotique... À Asimov, il dit non, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est Campbell qui les a inventés. C'est lui qui les a soufflés, après je les ai développés et je les ai utilisés comme un canevas pour écrire des nouvelles. Mais c'est pas moi qui les ai inventés. Donc j'ai toujours trouvé que c'était extraordinaire de la part d'un écrivain de dire mon inspiration, elle vient pas forcément de mon esprit, c'est venu de quelqu'un d'autre. Pour ceux et celles qui connaissent pas les trois lois de la robotique, elles sont très simples et elles conditionnent toute l'écriture de toutes les nouvelles d'Asimov qui concernent les robots. C'est premièrement, un robot ne doit jamais faire de mal à un être humain. Deuxièmement, un robot doit toujours obéir à un être humain, sauf si ça contrevient avec la première loi. Et troisièmement, un robot doit toujours protéger sa propre existence, sauf si ça contrevient avec les deux premières lois. Et c'est tout. Et pour vous indiquer à quel point les lois de la robotique et l'histoire d'Asimov ont influencé même la technologie moderne, il y a la société Honda, la société japonaise, a mis au point un robot qui s'appelle Asimo. A-S-I-M-O. Si vous tapez Asimo dans Google, vous allez tomber sur le site Honda et vous allez voir ce robot tout à fait extraordinaire. Et évidemment, ils l'ont appelé Asimo en hommage à Asimov. C'est un acronyme qui veut dire autre chose, mais ils l'ont appelé comme ça. Donc, cet écrivain m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et j'ai continué à lire pratiquement toute ma vie parce que, même si au début je lisais seulement des nouvelles qui étaient des nouvelles de science-fiction, il y a aussi beaucoup de nouvelles mystérieuses, de nouvelles policières, en particulier un cycle qui s'appelle The Black Widowers. The Black Widowers, c'est une sorte de club anglais dans lequel il y a une dizaine de personnages qui sont plus ou moins inspirés de lui-même et de ses camarades écrivains de science-fiction. Et chaque fois qu'ils se réunissent, une fois par mois, chaque fois qu'ils se réunissent, il y en a un qui présente une énigme aux autres. Et ils doivent essayer de résoudre l'énigme, de résoudre le problème, qui peut être une disparition, qui peut être un crime impossible, qui peut être n'importe quoi. Et c'est jamais l'un des membres de la confrérie qui résout, c'est toujours le majordome qui est là et qui donne les plateaux et qu'il faut, c'est toujours lui qui trouve la solution. Et ce sont des petits problèmes logiques qui sont très drôles, très intelligents, plein d'humour, toujours très inspiré, très intertextuel. Il y a beaucoup d'allusions littéraires, il y a beaucoup d'allusions à toute forme d'expression culturelle. Et évidemment, Asimov, c'est aussi un modèle pour moi, parce que c'est l'homme de formation scientifique, il était chimiste, biochimiste exactement, qui peut avoir une carrière d'enseignant en biochimie, dans je ne sais plus quelle université dans l'Est des États-Unis, je crois que c'était à New York, et puis qui, très jeune, se met à écrire des textes de science-fiction ou des textes d'imagination. Et je ne résiste pas au fait de vous raconter l'anecdote suivante, qui est une anecdote que je trouve extraordinaire. Quelques semaines avant de présenter sa thèse, Asimov publie dans une revue science-fiction, un pseudo-article scientifique décrivant une substance qui s'appelle la thiotimoline. Et la thiotimoline est une substance qui est tellement soluble que quand on la lâche au-dessus de l'eau, elle se dissout avant de rentrer dans l'eau. Et il la décrit de manière extrêmement sérieuse, extrêmement précise, avec des équations partout, etc. Et il raconte dans son autobiographie qu'il est terrorisé parce qu'il l'a donné à la revue, il pense que ça va paraître à la fin de l'année, il doit soutenir sa thèse au mois de mai, manque de peau, elle paraît 15 jours avant la soutenance de la thèse dans la science-fiction. Or, c'était déjà un écrivain qui était lu. Ses copains le lisaient, ils se disent, c'est une catastrophe, parce que mon jury va penser que je me moque de la science en publiant des textes parodiques comme ça. Donc, il va présenter sa thèse, on lui fait sa présentation de thèse, on l'interroge sur le contenu de son travail, et il raconte qu'à la fin de... Alors, le jury le fait sortir pour délibérer, puis on le fait revenir, et le jury se regarde comme ça, et le président du jury le regarde et lui dit « Maintenant, professeur Asimov, est-ce que vous pouvez nous parler de la thiotimoline ?» C'est-à-dire qu'il était tellement respecté en tant qu'écrivain et en tant que scientifique que ses maîtres avaient dit, ils avaient vu le texte évidemment, ça les avait bien fait rigoler, mais ils savaient très bien que c'était quand même quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle j'avais beaucoup d'admiration pour cet homme, parce que c'était quelqu'un de très sérieux qui essayait de mettre une fibre et une pensée scientifique à l'intérieur de ses fictions, même si ses fictions parlaient de choses qui étaient invraisemblables ou impossibles à prouver, il mettait une fibre et une réflexion scientifique dedans. C'était un grand vulgarisateur. Euh, il, euh, Il écrivait des livres, alors des livres de vulgarisation scientifique, surtout sur l'histoire de la science, sur les trous noirs, sur le corps humain. Quand j'avais 17 ans, j'ai acheté un livre qui avait été publié en 2 volumes en France. C'était un livre sur le corps humain et le cerveau, écrit par Asimov. Il faisait une sorte de physiologie du corps humain et de physiologie du cerveau, telle qu'on en avait les notions, ben, je ne sais pas de quand date le livre, mais c'était les années 60 ou 70. Et c'était 300 pages à chaque fois de vulgarisation sur le sujet, qui était tout à fait fascinant. Il écrivait des poèmes, il écrivait des limericks, c'est-à-dire des poèmes un peu érotiques et coquins. Il écrivait il a fait 2 livres absolument énormes qui sont une Bible annotée avec les annotations historiques sur l'origine des textes. Est-ce que ces textes étaient en fait la présence de ces textes dans d'autres traditions, etc. Les théories de l'époque, parce que évidemment c'était il y a peut-être 20 ans qu'il a fait ça, ou 25 ans, les théories de l'époque disant bah oui, mais ce texte-là est postérieur, il a été intégré après, etc. L'autre jour, mon fils, mon plus jeune fils, qui a 14 ans, et qui passe son temps devant un ordinateur, on lui dit, mais quand tu montes, à 9h30, il monte se coucher. Il n'y a pas besoin de midi, il monte se coucher. Et alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais quand tu couches? Tu dors tout de suite? Il dit, non, je lis un peu. Alors on lui dit, mais tu lis quoi? Il dit, ben, je lis la Bible annotée par Isaac Asimov. Alors il faut voir que le bouquin, il est fait comme ça. Hein, et il n'y a pas de version française, il est en anglais. Donc, mon fils, il est au Canada depuis 3 ans, il le lit en anglais. Alors il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais parce que sur mon iPod, il y avait 3 ou 4 bouquins dans la Bible. J'ai lu la Bible, et quand j'ai lu la Bible annotée par Isaac Asimov, j'ai regardé, il dit, mais c'est intéressant parce qu'il m'explique comment ça a été fait ce truc-là. Donc c'est bien. Et je trouve merveilleux qu'un garçon de 14 ans d'aujourd'hui tombe sur un bouquin comme ça et se dit, mais oui, ça c'est intéressant. Ça, pour moi, c'est la marque d'un écrivain qui laisse quelque chose de très important derrière lui, qui est une réflexion sur le savoir. Et d'ailleurs, Asimov était quelqu'un de tout à fait passionnant à cet égard. Je vous recommande un site qui s'appelle Brain Pickings. Et sur Brain Pickings, qui est un site qui parle de livres essentiellement, et de livres de forme thématique aussi. Sur la colonne de gauche de Brain Pickings, il y a plusieurs vidéos. Il y a en particulier une vidéo d'Asimov parlant de l'éducation et du savoir avant l'ère de l'ordinateur. Et à un moment donné dans la vidéo, il dit, un jour, c'est absurde d'emmener les gens, de faire aller les gens à l'école apprendre des choses qui ne les intéressent pas. Et puis une fois qu'ils ont fini, qu'ils ont leur diplôme, ils aimeraient bien apprendre d'autres choses qui les intéressent, mais on leur dit, non, c'est fini, maintenant vous allez bosser. Et bien un jour, les gens auront chez eux un ordinateur qui sera relié à une bibliothèque géante dans laquelle il y aura tout. Ils voudront apprendre quelque chose sur n'importe quoi, ils t'apprennent, et le savoir rentrera chez eux. Et il nous décrit l'Internet. Il décrit l'Internet sans dire que c'est l'Internet, bien sûr, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais il décrit le World Wide Web, il décrit les pages, il dit, et ils pourront non seulement apprendre des choses sur ce qui les intéresse, mais si eux, ils ont quelque chose à nous apprendre, ils pourront le mettre dedans. Et la vidéo en question, c'est une interview télévisée en noir et blanc, elle date du milieu des années 70. Donc, un paquet de temps avant qu'on ait l'idée même du web. C'est quelqu'un qui était très, très attaché à la fois. C'est pour ça que moi, il m'a énormément marqué quand j'étais enfant et adolescent, qui était attaché à la fois au savoir et à la fiction et à la narration. C'est quelqu'un qui aimait raconter des histoires. J'ai grandi dans une famille dans laquelle on aimait beaucoup raconter des histoires. Donc lire quelqu'un qui aimait raconter des histoires et qui aimait raconter des histoires à partir de choses vraies aussi, et de les recomposer pour en faire des choses qui étaient imaginaires et qui ouvraient l'esprit, c'était tout à fait fascinant. Ça, c'est le premier écrivain qui m'a véritablement, non pas seulement encouragé à écrire, mais qui m'a montré que être un écrivain, c'était un métier. Parce que dans les nouvelles qu'il présentait, il expliquait toujours, au début de ma carrière, quand j'ai vendu une première nouvelle à une revue, j'étais content, on me payait un cent le mot. Un peu plus tard, j'étais payé 25 cents le mot, alors ça voulait dire que j'étais un bien meilleur écrivain parce qu'on me payait plus cher, etc. Donc déjà, il disait, ben voilà, écrire, c'est quelque chose qu'on fait aussi parce qu'on gagne sa vie. Et puis, il disait aussi, écrire, c'est pas un miracle, c'est pas quelque chose qui vient du ciel. Moi, j'allais au lycée en France, et évidemment, de qui on en parlait? On parlait de Molière, qui est quand même le protégé du roi Louis XIV, et dont on pense qu'il n'a peut-être pas écrit ses pièces, finalement, mais c'était peut-être Corneille qui les écrivait. Et on nous parlait de Balzac, qui était quand même quelqu'un qui, même s'il n'était pas très argenté, fréquentait le beau monde, et qui écrivait au kilomètre parce qu'il était payé à la page. Donc c'est vrai qu'il écrivait au. Et on nous parlait de Flaubert, qui était un rentier. On nous parlait de Proust, qui était un parasite, qui tapait tout le monde, qui allait chez tout le monde manger les petits fours et qui écrivait sur tout le monde. Mais on ne nous parlait jamais d'un écrivain qui écrivait pour gagner sa vie. Et là, parmi mes livres d'Asimov, j'en ai un ici qui s'appelle Yours, Isaac Asimov, qui est sa correspondance, qui a été mise en page de façon, en prenant des fragments. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est son frère qui a pris toute la correspondance qu'il a pu retrouver et qui a classé des extraits de ses lettres et par thème. Et par exemple, un des thèmes, c'est l'écriture, bien entendu. Et il explique très bien là-dedans que ce qui compte pour lui, c'est d'écrire, et que il n'y a que ça qui le rend heureux. Et alors, il raconte un jour, il faudrait que je retrouve ça, mais il raconte un jour que quelqu'un vient lui dire « Oui, mais bon, vous écrivez beaucoup, vous n'avez jamais publié un best-seller. » À l'époque, il n'avait pas publié de best-seller, il avait publié 225 bouquins, mais aucun n'avait été un best-seller. Mais il avait gagné sa vie quand même avec 225 livres. Son premier best-seller, il est né en 1920, il a commencé à écrire peut-être à publier en 1942 ou 45. Et son premier best-seller date des années 80, c'est-à-dire quand il a écrit une suite à sa trilogie de science-fiction initiale, qui s'appelle la trilogie Fondation. Il a écrit une sorte de suite à Fondation, parce que depuis 20 ans, tout le monde disait « c'est un monument de la science-fiction, il faut nous découvrir la suite ». Finalement, un éditeur lui fait un contrat en or. Il écrit la suite alors qu'il n'a pas écrit de science-fiction depuis 20 ans. Il n'a fait que de la vulgarisation scientifique. Et là, il a un best-seller. Parce que tous les lecteurs de Fondation depuis les années 50 attendent la suite. Et c'est une sorte de classique. Ce classique qui est devenu un classique pour tous les amateurs de science-fiction. Ben, les amateurs attendent et boum, ils se précipitent sur Foundation et Edge, comme on dit. Et il dit, voilà, il a fallu que j'attende d'avoir publié pendant 25 ou 30 ans pour avoir un best-seller. Il dit, mais c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que ben, je gagne ma vie en écrivant, je suis très content. Si je fais un best-seller, tant mieux. Mais je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir un best-seller. Donc, c'était le premier écrivain que je lisais qui présentait ça comme un métier. Et pour moi, c'était précieux parce que je vivais dans un environnement dans lequel l'écrivain était forcément un génie. C'était forcément quelqu'un qui avait une sorte d'esprit surhumain. L'inspiration lui tombait du ciel et il n'avait qu'à fermer les yeux et tout de suite, il savait exactement comment il fallait faire les choses. C'est bien que c'est une image d'Épinal, mais c'est comme ça quand même que ça nous était présenté à l'école de façon plus ou moins implicite. Et ça, que je ne lisais pas à l'école, ça me disait, mais non, c'est pas vrai. C'est peut-être vrai comme ça dans l'imaginaire des profs de français, en France, mais c'est pas vrai comme ça dans la réalité de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça peut pas être vrai complètement, parce que c'est pas vrai ailleurs. De sorte que, pendant, disons, moi je commençais à écrire, j'avais 12 ou 13 ans, et j'écrivais au départ des nouvelles, parce que je pensais pas que je pouvais écrire des romans. J'écrivais des nouvelles de science-fiction et des nouvelles policières, bien entendu, parce que c'était les genres que je connaissais. Pendant peut-être les 25 ou 28 premières années de ma vie, j'ai pensé que écrire, c'était essentiellement raconter des histoires, et raconter des histoires qui étaient fondées sur une expérience personnelle. Je pense toujours ça. Mais je sais que c'est aussi un peu plus compliqué que ça. Et puis, il faudrait vous raconter deux autres anecdotes sur Asimov, parce que je trouve tout à fait remarquable. Si vous voulez lire une autobiographie d'écrivain qui est drôle et qui est intéressante, il faut lire l'autobiographie d'Asimov qui s'appelle I, Asimov, et où il raconte, il avait déjà écrit une autobiographie, mais il la raconte à nouveau autrement. Et il raconte deux anecdotes qui sont très drôles. La première anecdote, c'est une journaliste qui vient le voir et qui lui dit comment est-ce que vous vous mettez en condition pour écrire? Alors il dit, j'écris toute la journée, je ne vois pas ce que vous me dites. Mais est-ce qu'il faut que vous ayez vos crayons? Est-ce qu'il faut que vous mettiez vos pantoufles fétiches? Est-ce que vous êtes obligé d'écrire dans votre avec une tasse de café, etc. Alors il réfléchit, il dit, j'approche mes doigts suffisamment près du clavier pour qu'il les touche, et j'écris. Il n'avait pas de... Lui, il écrit tout le temps, il se mettait. Et je me sens tout à fait comme ça, c'est-à-dire l'endroit où je suis le plus souvent chez moi, c'est devant mon ordinateur, et puis j'écris, ou je lis, parce que je vais sur surfer, ou je télécharge des livres, des articles, des livres, et je suis toujours avec les doigts sur le clavier, et je trouve ça tout à fait prodigieux. La deuxième anecdote, qui est tout à fait merveilleuse, c'est que un jour on lui dit, mais si vous saviez que vous n'en aviez plus que pour 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Il dit, je taperais tout vite. C'est une anecdote très émouvante parce que Asimov est mort du sida, non pas parce qu'il a contracté le sida par son activité sexuelle, mais parce qu'il a été transfusé à une époque où on ne faisait pas attention aux transfusions. Il a été transfusé après une intervention et il est devenu séropositif à cause de sa transfusion. Et donc il savait qu'il avait, alors c'était avant les trithérapies, donc il est mort des complications du sida. Et il est arrivé à un moment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit cette autobiographie, il est arrivé à un moment où il savait qu'il avait une espérance de vie très courte. Il est mort, il avait 72 ans, ce qui n'est pas très jeune, mais ce qui n'est pas très vieux non plus. S'il n'avait pas été infecté par le virus, il aurait peut-être vécu encore, c'était un type qui avait une vie assez tranquille, qui n'était pas agité, il aurait peut-être vécu encore 10-15 ans, il aurait continué à produire et il aurait probablement dépassé les 500 volumes. Là, il a atteint, je crois, que 470 ou 480 livres de son vivant, ce qui est quand même pas mal. C'est probablement un des auteurs les plus prolifiques de toute l'histoire de la littérature. Donc c'est émouvant de dire, voilà, et il a écrit cette autobiographie précisément dans les dernières années de sa vie, parce qu'il savait que sa vie était comptée, enfin ses jours étaient comptés. Et c'est une autobiographie tout à fait drôle, parce que d'abord c'est très intéressant sur le plan historique, parce qu'il raconte l'histoire de la science-fiction du début du XXe siècle et des deux... de tout le XXe siècle pratiquement aux États-Unis, et ça pour quelqu'un qui aime beaucoup le genre, c'est passionnant, parce qu'il parle de gens qu'il connaissait, qui étaient ses amis et tout ça. Et ensuite parce que il raconte ce que c'était que de grandir dans une famille qui était une famille d'immigrants, c'était des immigrants russes. On pense que sa mère était plus ou moins enceinte de lui quand ils sont arrivés en 1920 à New York, par Ellis Island et tout ça. Et son père, enfin ses parents n'avaient pas d'argent. Lui, il n'a pu lire. Il explique que quand il était gamin, il lisait les bandes dessinées parce que son père avait une Kenisha. Et il y avait un tourniquet avec les comic books dedans. Les pops. Donc il les lisait parce qu'ils étaient dans la boutique. Autrement, il n'aurait pas pu. Et alors, un des cadeaux que son père lui a fait, c'est qu'il lui a offert une carte de bibliothèque. Et que là, il allait à la bibliothèque. Il disait, j'en revenais avec deux bouquins, un sous chaque bras et le troisième, je le lisais dans la rue. Mais autrement, c'est un enfant pauvre. Il n'aurait pas pu s'acheter beaucoup de livres. Donc ça, c'est quelque chose de très émouvant. Et son autobiographie, c'est si vous voulez lire quelque chose qui est en rapport avec qu'est-ce que c'est que de devenir écrivain, c'est vraiment une autobiographie à lire, parce que c'est d'abord c'est très drôle, et ensuite c'est extrêmement intéressant sur qu'est-ce que c'est qu'être un écrivain professionnel tel que les Américains, les États-Unis le voient. À l'âge de 26 ans, je crois. 76, j'avais 21 ans. Oui, je suis né en 55. 55, 75, 76. À l'âge de 21 ans, j'étais étudiant en médecine à Tours et je rentre dans une librairie qui n'existe plus, enfin qui a déménagé, qui existe toujours, mais qui a déménagé. Et je vois un gros bouquin, écrit comme ça. Dont le titre me saute au visage immédiatement, d'autant plus qu'il est sous-titré de manière très intéressante. C'est un livre qui s'appelle « La vie mode d'emploi ». Et dessous, il y a écrit « roman au pluriel ». Alors, d'habitude, vous avez le titre du roman et puis « roman au singulier ». Mais là, c'est « roman au pluriel ». Je tourne le livre et de l'autre côté, il y a une petite présentation qui est signée des initiales de l'auteur, ce que je n'avais jamais vu avant. D'habitude, les quatrièmes de couverture, elles sont faites par l'éditeur, elles sont faites par quelqu'un d'autre. Et là, manifestement, c'est l'auteur qui a signé, puisque c'est l'initial. Il s'appelle Georges Perec, et je me dis que ça doit être un nom breton. Et je lis la quatrième qui dit, voilà, à la fin de sa vie, le peintre Baleine décide de représenter l'immeuble dans lequel il a vécu pendant 50 ans, la façade enlevée, et de décrire et de peindre tout ce qu'il y a dans toutes les pièces en façade, en racontant les histoires des gens avec leur bouilloire, leur chat et leurs horloges. Et je suis stupéfait de voir ce livre, et je n'avais pas d'argent. J'étais vraiment fauché, j'étais un étudiant très fauché à l'époque. Il était assez coûteux, donc je me dis, est-ce que je l'achète ou je ne l'achète pas? Et je feuillette le livre. Et à l'intérieur du livre, je vois un petit passage à la fin qui dit « Ce livre contient des citations parfois légèrement modifiées de... » Puis donne une liste d'écrivains, pour la plupart que je ne connais pas, ou d'artistes. Maintenant, je connais, mais qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Et il en cite un qui me saute au visage, et qui est Theodore Sturgeon. Theodore Sturgeon, c'est aussi un écrivain de science-fiction, qui était aussi un ami d'Asimov, d'ailleurs. Et j'étais sûr d'être le seul lecteur français à avoir lu Theodore Sturgeon. Je me dis, mais si ce type-là a lu Theodore Sturgeon, il ne peut pas être complètement mauvais. Bon, donc, La vie mode d'emploi de Georges Perec, je tourne autour, je passe 15 jours à tourner autour, au bout de 15 jours, je l'achète, je le lis 6 fois, et là, je me dis, je suis en face de l'écrivain français que j'aurais voulu être. Et Georges Perec était un écrivain très très différent et à la fois il avait beaucoup de points communs avec Isaac Asimov. Je ne sais pas s'il avait lu Asimov, en tout cas j'ai rien lu de Perec disant qu'il avait lu Asimov. Mais il avait des tas de points communs. Un de ses points communs, c'était son humour. C'était sa manière de jouer malicieusement avec le lecteur. Perec est un écrivain qui adore les calembours, qui adore les farces, qui adore les jeux de mots, qui adore les histoires drôles, etc. Et quand on lit La vie mode d'emploi, on n'arrête pas tantôt de pleurer, tantôt de rire, parce qu'il y a des histoires extrêmement drôles dans La vie mode d'emploi. Et puis il s'amuse parce qu'il met plein de trucs incongrus dans les pages. Il y a des objets, il y a des dessins, il y a des pastilles du jeu de go dans un escalier, il y a des énigmes auxquelles il donne sa réponse d'ailleurs. Il y a tout un tas de choses. Quand on feuillette le livre et qu'on voit d'ailleurs à la fin, c'est un roman dans lequel il y a un index. Il n'y a jamais d'index dans les romans. Voilà, non seulement il y a un index avec l'index de tous les personnages et de tous les auteurs cités dans le roman. Et l'index, c'est quelque chose comme 80 ou 100 pages. Et en plus, il y a une liste de toutes les histoires qu'on trouve dans le roman. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de manuel romanesque avec l'appareil d'exploration du manuel romanesque à la fin, comme si c'était un livre scientifique. Et je trouve ça absolument fascinant. Je me mets à lire tout ce que je trouve de Georges Perec, et en particulier deux autres. Enfin, j'ai lu à peu près tout ce qui avait été publié de Perec, je crois, y compris bien entendu bien après sa mort, parce qu'il est mort en 82. Donc, pendant les 6 ans où il est encore vivant, je fantasme une relation d'exception avec Georges Perec. Je me mets à écrire un grand roman qui est inspiré de La vie mode d'emploi, qui est gigantesque et qui fait 750 pages d'actylographie serrée en simple interligne, qui n'a jamais été publié, Dieu merci. Mais je me dis, voilà, ça c'est l'écrivain français que je voudrais être. Alors pourquoi est-ce que je voulais être cet écrivain français-là et pas les autres? En tout cas, pas les autres contemporains, j'aurais voulu être, moi, j'aurais adoré être Maurice Leblanc, ou Gaston Leroux, ou Ponson du Tirail, ou Eugène Sue, ou des gens comme ça, ou Zola à la rigueur, parce qu'il y avait un côté militant chez Zola qui était tout à fait, auquel je m'identifiais tout à fait. Mais cet écrivain-là, parce que justement, dans La vie mode d'emploi, il y a toutes les littératures. Il y a la littérature hyper réaliste, il y a la science-fiction, il y a un chapitre extraordinaire dans la vie mode d'emploi, qui est un chapitre dans lequel il explore ce qu'il y a sous l'immeuble. Hein, le roman est centré sur les personnages de l'immeuble et ce qu'ils ont vécu un peu partout dans le monde, mais il y a un chapitre qui explore ce qui se passe sous l'immeuble, c'est-à-dire les strates successives sur lesquelles on a construit l'immeuble, et ça se termine quasiment aux enfers. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a du roman policier, il y a de la comédie, il y a du théâtre de vaudeville, il y a de tout. Et ça, c'est, je trouvais ça extraordinaire parce que c'était le premier exemple d'écrivain français qui, dans un livre absolument gigantesque, mélangeait du genre. Pour moi, c'était aussi ce point commun. Et puis, il y avait ce souci de construction que je n'avais pas perçu chez les écrivains anglo-saxons parce que c'est souvent beaucoup moins évident. La construction d'une nouvelle policière, c'est quelque chose qu'on ne doit pas voir. Alors que là, dans la vie de mode d'emploi, il vous montre les pièces littéralement. D'abord, il y a tout un chapitre introductif qui est un chapitre sur l'art de faire les puzzles. Et donc tout de suite, vous comprenez qu'il fait une analogie entre l'écrivain de littérature et le fabricant de puzzles, et le roman comme un puzzle qui est assemblé, qui est découpé à l'avance par l'écrivain et qui est assemblé par le lecteur mentalement, qui finit par avoir l'intégralité de la figure du puzzle à la fin de la lecture. Et ça, c'est cette introduction, ce chapitre, qui est d'ailleurs cette préface, enfin ce préambule, exactement, je ne suis pas dans le roman, un préambule qui est d'ailleurs un des chapitres du livre. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait pris une pièce de son puzzle et il nous présentait la première pièce qu'on prend dans le tas. Mais elle va dans le puzzle. Donc c'est très étonnant et je me rends compte très vite que ce préambule, il est aussi à l'intérieur du puzzle. Donc ce souci de construction et ce souci aussi d'écriture extrêmement soignée, encore une fois, qui joue avec les mots, qui joue sur les calembours, qui fait des tas de citations à droite à gauche, qui est un jeu permanent avec le lecteur, ça me touche aussi beaucoup. Et à ce moment-là, je sais que je suis damné. Je suis damné parce que je pensais résolument que, jusqu'à l'âge de 21 ans, je pensais que ma seule solution pour écrire, c'était de devenir un écrivain américain. Et là, je me dis, je suis damné, je ne peux pas devenir seulement un écrivain américain, je suis aussi obligé de devenir un écrivain français. Et, bon, je pense quand même que je suis un écrivain américain, mais de langue française. Et c'est Pérec qui, en fait, me ramène dans... m'amène, parce que j'avais été... Par exemple, je détestais Flaubert, je détestais Stendhal, je détestais Balzac, je détestais à peu près tout ce qui était écrit en langue française, sauf Maurice Leblanc, bien entendu. Et Henri Verne, et Jules Verne et Henri Verne. Henri Verne, c'est un écrivain de roman populaire qui a inventé le personnage de Bonne Morale, le personnage des années 60. Et c'est lui qui, en fait, en écrivant un certain nombre de, enfin, dans un certain nombre de textes que je lis, de lui qui me réconcilie avec la littérature française, en particulier avec Flaubert, en particulier avec Proust, que je me mets à ce moment-là à lire, non pas, et là j'établis une distinction extrêmement claire dans mon esprit, non pas pour l'histoire, mais pour la langue. Et je crois que c'est toute l'histoire, en fait, de l'opposition de la littérature entre la littérature anglo-saxonne au sens large, mais on peut dire aussi une littérature québécoise qui est aussi beaucoup centrée aussi sur l'histoire et qui travaille beaucoup la langue, qui essaye de faire la jonction entre les deux, et la littérature française qui est beaucoup centrée sur la langue, et beaucoup moins sur l'histoire. Qui s'intéresse moins aux rebondissements, qui s'intéresse moins aux retournements de situation, qui s'intéresse moins aux événements ou aux conflits entre les personnages qu'aux tourments intérieurs et à la manière d'exprimer ces tourments intérieurs sous une forme qui soit qui soit sensible pour le lecteur. Et Pérec, lui, c'est aussi un écrivain américain dans une certaine mesure. D'ailleurs, un de ses meilleurs amis était un écrivain américain qui s'appelle Harry Matthews, dont il avait traduit des textes. C'est un écrivain américain en ce qu'il ne rejette aucune forme littéraire, Il aime raconter l'histoire, même s'il n'aime pas les raconter directement. Un des exemples, c'est W ou Souvenir d'enfance, dans lequel il essaye de raconter, c'est à la fois un texte autobiographique et un texte de reconstitution de l'histoire de sa famille, et aussi une sorte de texte imaginaire sur une utopie centrée autour, autour de l'idéal olympique, mais qui en fait renvoie aux camps de concentration. C'est quelqu'un qui aime les histoires, mais c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup les mots avec la langue et le travail de la langue. Alors, c'est un poète, il écrit des poèmes sous contrainte, à partir de, par exemple, il écrit Ulcération en ne prenant que les 11 lettres les plus fréquentes de l'alphabet français. Il écrit un roman lipogrammatique qui s'appelle La disparition, dans lequel il n'y a pas une fois la lettre E, et qui parle de la disparition de la lettre E. Il écrit un livre formidable que j'ai ici, que je vous recommande, qui s'appelle Espèces d'espace, dans lequel il parle des espaces qui nous entourent. Et c'est tout à fait impressionnant et drôle, et c'est profond. Et celui-là, j'ai dû le lire 12 fois, celui-là, j'ai dû le lire 25 fois. Il est plus court. Mais il est d'une profondeur extraordinaire. C'est dégoûtant d'écrire comme ça. C'est dégoûtant. Un type comme ça, il serait encore mieux, il faudrait le tuer, parce que c'est pas permis d'écrire aussi bien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup accompagné et aussi beaucoup. Qui m'a donné un grand sentiment d'infériorité. C'est très difficile en France d'écrire de la littérature parce que on passe notre temps à nous dire que. Il y a des grands écrivains. Pour la plupart, ils sont morts. Alors, je ne peux pas dire, je ne suis pas d'accord avec vos analyses. Il y a des grands écrivains. Et que quand on. Voilà, une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, je dis. C'était mon premier roman. J'ai écrit mon premier roman. Mon premier roman a été écrit entièrement. Pas complètement entièrement, mais beaucoup en hommage à Georges Perec. Georges Perec a écrit un roman qui s'appelle Un homme qui dort, qui est entièrement écrit à la deuxième personne. Tu fais ci, tu fais ça, tu rentres, tu sors, tu montes l'escalier, tu descends, tu ne peux pas aller au café. Et ça sera comme ça pendant tout le roman, comme la modification de Victor, qui elle est. Enfin, vous, mais ça c'est la même chose. C'est-à-dire que le narrateur est un narrateur extérieur à l'action, qui pourrait être l'écrivain, ou qui pourrait être le personnage lui-même qui se regarde de l'extérieur et qui donc se tutoie. Mon premier roman, La Vacation, c'est un roman qui était écrit entièrement à la deuxième personne, mais. Comme Perret, mais pour une raison très précise, qui est qu'on ne connaîtra le narrateur que dans la dernière page du livre. Et c'est pour ça qu'il est à la deuxième personne, parce que la narration est faite par quelqu'un qui a une importance tout à fait considérable, même si elle est incidente sur le sujet du roman, qui est l'avortement, qui est l'histoire d'un médecin qui pratique. Donc j'ai écrit ce roman entièrement en pensant à Georges Perec, en me disant je vais écrire un roman à la deuxième personne. Et il y a même une allusion à Georges Perec à la fin du roman, puisque à un moment donné, le personnage se pose la question de savoir comment il peut écrire sur l'avortement, et il imagine qu'il envoie son manuscrit à un éditeur discret, mais de grande réputation, et qui veut que son roman soit publié 7 ans jour pour jour après la mort d'un écrivain célèbre, qui est donc Georges Perec, qui était mort en 82. En fait, je rêvais que mon roman serait publié 7 ans jour pour jour après la mort de Perec. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'écrivais dans le roman, de manière quasiment prophétique, quelque chose qui allait m'arriver, mais dont j'avais absolument aucune idée. Mais surtout, je pense beaucoup à Perec parce que je travaille absolument la langue de ce roman pour essayer de faire passer des subtilités que je n'arrive pas à énoncer clairement. Et j'essaye de le faire comme il le fait dans Espèce d'espace ou comme il le fait dans W en particulier, où il est tout le temps dans une sorte de retenue du sentiment. Il ne veut pas se laisser aller au sentiment que c'est de parler de ses parents qui sont morts. Il ne veut pas se laisser aller au sentiment de colère que c'est de penser au camp de concentration. Et il le fait toujours de façon extrêmement retenue. Moi qui écris un livre sur l'avortement dans lequel je parle de la douleur d'avorter pour les femmes et pour les soignants qui avortent les femmes. Je suis aussi, j'essaye aussi de retenir tout ça. Et le roman sort, il a deux articles dans deux journaux importants. Un c'est Libération, l'autre c'est Le Monde. Et le journaliste qui fait l'article sur Le Monde, qui ensuite a considéré que tout ce que j'ai fait après était mauvais, veut absolument me rencontrer. Et il m'invite au café, puis au moment où on boit un café, il me dit « Mais vous vous rendez compte quand même de ce que votre roman a de flaubertien ?» Voilà, je dis « Ben non, parce que je n'ai pas lu Flaubert. J'avais 34 ans, je n'avais pas lu Flaubert. » Au bout de deux pages, Flaubert, comment pouvez-vous écrire sans avoir lu Flaubert ? On continue la conversation et puis il me parle de Proust. Je dis, ben, j'ai pas lu Proust. Il dit, ben, c'est vrai parce que quand on a lu Proust, on ne peut plus écrire. Et vous voyez bien, c'est, alors pour un critique, il y a, ce critique, c'est un grand critique, c'est Michel Conta qui est le critique et historiographe de Sartre, c'est pas n'importe qui. Hein. Ce double bind, vous ne pouvez pas écrire si vous n'avez pas lu Flaubert, mais d'un autre côté, si vous avez lu Proust, vous ne pouvez plus écrire. Et après, je me suis construit une petite histoire, qui est celle-ci, que je dis aux étudiants, aux gens qui veulent écrire et qui me disent « Ouais, mais j'ose pas écrire parce qu'on m'a dit que de toute façon, je ne ferai jamais aussi bien que Flaubert. » Je dis « Écoutez, Flaubert, il n'avait pas lu Proust. » Il a écrit quand même. Proust, il avait lu Flaubert. Il a écrit quand même. On les emmerde. Si on se laisse arrêter par les écrivains que tout le monde considère comme des écrivains supérieurs, c'est pas la peine. Que fait James Joyce quand il fait Ulysse ? Il dit, allez, je sais pas comment je vais raconter l'histoire, la journée de Leopold Bloom, je vais refaire l'Odyssée. C'est une idée géniale. Ça donne quelque chose de complètement différent. Heureusement qu'il ne s'est pas laissé arrêter par sa lecture de Ulysse. Un des romans que j'ai écrit et un de mes romans les plus chers, c'est après mes études de médecine, je voulais absolument arrêter je voulais absolument écrire un livre qui parlerait de mes études de médecine. Et je ne savais pas comment faire parce que je ne voulais pas que ce soit une autobiographie, c'était pénible. Et donc il s'est passé, mes études de médecine, je les ai terminées en 81. Il s'est passé presque 25 ans avant que je me mette à écrire un roman sur mes études de médecine, et je n'ai pu le faire que le jour où je me suis dit, en fait, c'est impossible, je ne peux pas le faire parce que je veux écrire un roman de formation, un roman politique, parce que ça se passait dans les années 70 où ça chauffait un peu, un roman sur l'amitié, un roman d'amour et un roman d'aventure. Je ne peux pas le faire, personne n'a fait ça. Moment où je me dis, ben, si quelqu'un a déjà fait ça, c'est Alexandre Dumas avec les Trois Mousquetaires. Là, je me suis dit, ben, je vais faire un remake des Trois Mousquetaires. Et donc, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Trois Médecins, qui est Les Trois Mousquetaires, mais Les Trois Mousquetaires, c'est trois étudiants en médecine, plus un quatrième qui arrive au début, et qui font leurs études de médecine dans les années 70. J'aurais jamais eu l'idée de faire ça si j'avais pas été nourri de littérature du XXe siècle, contemporaine, dans lesquelles les auteurs que j'aimais étaient les auteurs qui n'avaient pas peur de mélanger les genres. J'aurais été trop paralysé à l'idée de me dire non, je peux pas. D'abord, Les Trois Mousquetaires, c'est quoi ? C'est un roman de littérature populaire, ça. Les Trois Mousquetaires. Bon, d'accord, c'est bien, c'est un classique, mais bon, hein, les écrire par des nègres, etc. Bon, c'est pas bien, c'est pas Flaubert, c'est pas Proust. Si je fais quelque chose, c'est Madame Bovary, c'est pas la première chose à faire. J'aurais jamais pu faire ça si je m'étais pas dit, tiens, c'est une idée complètement farfelue de refaire Les Trois Mousquetaires dans une fac de médecine dans les années 70. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le défi, c'est-à-dire une sorte de livre sous contrainte. D'ailleurs, le livre est découpé exactement comme Les Trois Mousquetaires, avec tous les morceaux de bravoure, c'est-à-dire les duels, les ferrets de la reine, etc. Tout y est. Un truc qu'on n'adapte jamais dans les films, c'est le siège de La Rochelle. Moi, j'ai le siège de La Rochelle dans mon roman, il est transposé. Bon. Donc, Ça, c'est un roman, à la fois un roman, comment dirais-je, ludique, comme l'écrivait comme Asimov qui dit tiens, allez, je relève un défi, et un roman à contrainte, comme les romans qu'écrivait Pérec, où il se dit bah, tiens, je vais faire un roman sans être E. Alors lui, c'était des contraintes qui étaient des contraintes linguistiques, plutôt. Moi, c'est plutôt des contraintes structurelles, mais c'est la même chose. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai parlé plus qu'il fallait. Mais voilà en gros comment je suis devenu écrivain grâce à Asimov et à Pérec. Il y a beaucoup d'autres écrivains, bien entendu, j'ai lu beaucoup d'autres écrivains. Je pourrais parler pendant une heure de Maurice Leblanc, d'Agatha Christie, Conan Doyle. Conan Doyle est un écrivain pour moi tout à fait important parce qu'il était médecin, parce qu'il a inventé un personnage et un mode de narration qui reste la première aventure de Sherlock Holmes, c'est 1895, donc voilà, on est 120 ans plus tard, et on continue, et il y a deux téléséries qui reprennent Sherlock Holmes, l'une sur la BBC, l'autre sur CBS depuis 3 semaines, c'est un personnage qui fait des films, c'est un personnage improbable, et puis et puis Conan Doyle était médecin, et par exemple il a écrit des romans historiques, il a écrit des essais, il a fait un peu son affaire Calas comme Voltaire, en défendant des gens qui avaient été injustement accusés, en utilisant les méthodes de Sherlock Holmes pour les données de santé. Il a écrit des livres à la fin de sa vie, il était tout à fait dans le spiritisme, il a écrit des livres sur le spiritisme. Il a écrit des romans de science-fiction, il y a tout le cycle du professeur Challenger qui sont des romans de science-fiction dans la pure veine de Herbert George Wells et de gens comme ça, ou de Jules Verne. Et puis il a écrit des nouvelles fantastiques, il a écrit des nouvelles aussi sur son métier de médecin. Il y a un recueil qui s'appelle Sous la lampe rouge, sur lequel il y a des nouvelles réalistes sur des médecins, et qui sont tout à fait fascinantes, y compris une nouvelle qui raconte comment un médecin qui est dans un petit village, qui est le médecin de village, qui a absolument sa place et qui tient à la garder, apprend qu'un autre médecin vient de s'installer. Il est très fâché de ça. Il demande à rencontrer cet autre médecin et il se découvre avec stupéfaction, on est en 1898 ou en 1900, que ce deuxième médecin est une femme. Ce qui est tout à fait... c'est une des premières femmes qui a un diplôme de médecin en Angleterre à ce moment-là. Et non seulement il est stupéfait de voir que c'est une femme, mais peu à peu, il tombe amoureux d'elle. Et à un moment donné, il lui propose de l'épouser et elle lui dit non. D'abord ma carrière. Donc vous voyez l'intelligence et le caractère extrêmement progressiste d'un écrivain comme ça de la fin du 19e, du 20e, qui sait qu'il y a des femmes qui sont en train de devenir médecins. Aux États-Unis, la première femme médecin, je crois que c'est 1890 ou 1895, hein, c'est pas très vieux. En Angleterre c'est pareil, et il dit oui, mais si une femme devient médecin, pourquoi est-ce que ça arrêterait de pratiquer la médecine pour devenir une mère au foyer et continuer sa carrière de médecin? Bon. Donc voilà, je pourrais vous parler aussi bien de Conan Doyle, mais c'est quand même ces deux écrivains, c'est quand même Pérec et Asimov qui m'ont le plus intensément modelé par leur je crois autant par le... c'est ça aussi qu'ils ont en commun, autant par leur texte que par leur personnalité, parce que quand on lit leur texte, on sent qui ces gens-là étaient. Je crois qu'on peut sentir qui est Georges Pérec en lisant W, ou en lisant Espèce d'espace, ou en lisant La Bible d'emploi. On peut sentir quel genre de personne à l'intérieur c'était, et c'est tout à fait... c'est tout à fait étonnant de se sentir en intimité avec un auteur. Alors, on se sentait en intimité avec Asimov pour d'autres raisons, parce que on parlait directement au lecteur, alors que Pérec ne le faisait pas. Il le faisait de façon un peu détournée, dans les textes un peu courts. Il y a un recueil qui s'appelle Pensée classée, dans lequel il parle de lui-même de façon beaucoup plus détournée. Il raconte en particulier sa psychanalyse, un texte formidable qui s'appelle Les lieux d'une ruse, dans lequel il raconte sa psychanalyse sans jamais dire ce qu'il a raconté pendant sa psychanalyse. Et quand vous avez lu le texte, vous savez ce que c'est une psychanalyse, mais vous ne savez pas de quoi il a parlé. Et c'est formidable, parce que moi, j'avais jamais lu un texte sur la psychanalyse comme ça. Donc, ils parlent, c'est deux écrivains qui, chacun à leur manière, écrivent absolument les textes qu'ils ont envie d'écrire. Alors on peut dire ça de Pérec comme d'Asimov, même si Pérec a moins produit, il a été moins longtemps, parce qu'il est mort assez jeune, il est mort il avait 46 ans. Ils ont produit les textes qu'ils avaient envie d'écrire, ça c'était tout à fait fondamental, mais aussi, ils les ont produits avec une fibre personnelle et une sorte de contact intime avec le lecteur qui, moi, m'a beaucoup touché. Mon souhait, c'est que c'est qu'un jour je puisse rendre hommage à ces deux écrivains par écrit. C'est-à-dire un jour que je puisse écrire un livre où je parlerai de ma relation intime avec Georges Perec et Isaac Asimov. J'espère qu'un jour je le ferai, même si c'est un peu compliqué à faire quand il y a autant de gens qui écrivent sur des écrivains importants. Ouais, sur Asimov, il y a peut-être bouquins sur Perec, il y en a aussi des bouquins. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et si vous avez quelques questions avant de rentrer dans vos foyers, je serai très heureux d'y répondre. C'est extraordinaire parce que j'adore raconter des histoires et en plus on m'applaudit à la fin.